Hommes et femmes connus et méconnus de Savoie, une chronique de Pierre Cardona.
Chères auditrices et auditeurs, bonjour. Je vous fais découvrir chaque semaine des personnages qui ont fait la richesse de notre belle Savoie ou de certains qui ont réalisé des actions fortes. Pour ma part, je parle au nom de la Compagnie de Savoie qui a pour objectif de promouvoir les valeurs des pays de Savoie et de transmettre et de sauvegarder cette identité savoyarde. Nous allons aujourd'hui à la découverte d'un homme de grande valeur. C'est Simon Tissot-Dupont, ou quand le luxe s'exporte dans le monde entier. Depuis plusieurs générations, les Tissot vivent à Saint-Ferréol, petit village situé près de Faverges, actuellement en Haute-Savoie, où ils exercent la profession de meunier. Leur moulin à eau étant installé près d'un pont, les gens du coin ont pris l'habitude de les appeler les Tissot-Dupont. Si bien qu'avec le temps, leur nom devient Tissot-Dupont. Né en 1847, Simon rêve d'autres horizons et, comme beaucoup de ses compatriotes, son baluchon attaché au bout d'une canne, et il quitte sa Savoie natale et monte à Paris. Indépendant, ne voulant pas rester sous les ordres d'un patron, il crée une entreprise de tôlerie, bientôt ravagée par un incendie. Nullement découragé, en 1872, il place ses économies dans l'acquisition d'un petit atelier de maroquinerie et se lance dans la fabrication de portes d'occupants. Mais, délaissant la simple serviette que les ronds de cuir trimballent sous leurs bras, Simon Tissot-Dupont s'oriente d'emblée vers une production artisanale de qualité et recrute des ouvriers compétents. Il devine, en effet, que pour réussir, il faut être à la pointe de l'innovation, ne pas se contenter d'offrir à la clientèle des articles qu'elle peut trouver ailleurs sans difficulté. Il sait en outre qu'à Paris, des gens aisés sont prêts à mettre la main à la poche pour faire un cadeau ou tout simplement pour se faire plaisir. Le bouche à oreille fonctionne. Porte-documents, sous-mains, portefeuilles en cuir personnalisés, avec les initiales de leurs destinataires, rencontrent un joli succès auprès des hauts fonctionnaires, des diplomates et des hommes d'affaires. Bientôt, la société ST Dupont fournit les grands magasins du Louvre. La boutique Cartier est située dans la 5e avenue à New York, les magasins Asprey de Londres. Jamais à court d'idées, Simon Tissot-Dupont se tourne vers la fabrication de malles et mallettes de voyage en bois précieux, aux finitions parfaites, aux teintes chatoyantes, et dès la fin de la Première Guerre mondiale, transmet à ses deux fils André et Lucien sa florissante entreprise avant de se retirer à Faverges où il meurt en 1922 à l'âge de 75 ans. Tout en décidant de concentrer l'activité de la société familiale sur les seuls accessoires de luxe, les deux frères non plus ne manquent pas d'idées. Ils veillent à s'entourer d'artisans d'art, au savoir-faire incomparable, et confiant en l'avenir, ouvrent un atelier à Faverges. À Paris, leur magasin de la rue Dieu dans le 10e arrondissement voit non seulement défiler des personnalités du monde des affaires, du spectacle ou de la politique, mais aussi des têtes couronnées, des princes, des maharajas. Le baron Maurice de Rothschild, le duc de Kent, la duchesse de Windsor, entre autres, y ont leurs habitudes. Un peu par hasard, l'entreprise devient en outre dépositaire d'un secret bien gardé, la laque de Chine sur métal. Elle en tire sans tarder tous les usages possibles, tandis que les mallettes précieuses, couleur bleu lavande, sont réalisées à l'occasion du mariage de la princesse Élisabeth avec le prince Philippe, duc d'Édimbourg. Mais, entre-temps, la Seconde Guerre mondiale est passée par là. Les goûts, les modes de vie ont changé. Anticipant ces évolutions, André avait déposé à Annecy en 1941 le brevet d'un briquet de poche à essence en aluminium. Il ne lui avait pas échappé que des gens fumaient de plus en plus, notamment les femmes. Un nouveau briquet à gaz est lancé en 1952. Posséder un Dupont en laiton massif, plaqué or ou argent, avec son bruit caractéristique à l'ouverture, devient en quelque sorte un marqueur social et des utilisateurs célèbres comme Louis Renault, Humphrey Bogart, Coco Chanel, Marilyn Monroe sont les meilleurs agents de publicité. L'année suivante voit la sortie d'un sac à main en cuir haut de gamme, à la fois résistant et doux, le Riviera, lequel devient vite l'accessoire fétiche d'Audrey Hepburn. Objet de luxe conçu pour durer, il symbolise le talent de la maison Dupont, dont les articles sont maintenant disponibles aux quatre coins de la planète. Imagination, fantaisie, savoir-faire incomparable, dans l'atelier de Faverges, une bonne quinzaine de métiers différents sont à billet d'œuvre quelquefois pour réaliser une commande unique. Au début des années 60, avec le cricket, l'entreprise se lance dans la fabrication des briquets à gaz non rechargeables, donc jetables. Technique initiée dès 1948 par Marcel Bic. Mais si ce nouveau produit se vend plutôt bien en France et en Europe, il n'est guère prisé outre-Atlantique. Les habitudes ont parfois la vie dure. Lucien et André ont déjà passé la main quand Jackie Kennedy, très attaché à son briquet Dupont, formule le vœu de posséder un stylo qui lui serait assorti, et c'est ainsi qu'en 1973, ST Dupont fabrique son premier stylo bi, modèle prestige dénommé le classique. L'année suivante, les stylos plumes font leur apparition. Le succès ne se fait pas attendre. Deux magasins ouvrent à Paris, d'autres à Milan, Moscou, Hong Kong. Le luxe français s'exporte bien. Le stylo mine, en 1981, précède les fameux stylos plumes Olympio en 1996, salués pour l'élégance de sa ligne et la qualité de son écriture. Au fil du temps, l'entreprise élargit sa production. Montres, bijoux, maroquinerie, articles de prêt-à-porter masculin, tout en combattant la contrefaçon qui touche le commerce de luxe. Avec la même détermination que celle de son créateur Simon Tissot-Dupont, elle s'efforce d'aller de l'avant et obtient en 2013 le label Entreprise du patrimoine vivant, marque de reconnaissance de l'État, pour son savoir-faire d'excellence, pour son soutien au Made in France. Cette chronique est tirée d'un livre de Michel Germain, président de la Société des auteurs savoyards, et celui de Pierre Hoffmann, ces savoyards qui ont fait l'histoire. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Et surtout, à une prochaine fois.